J'aimerais parler sur les sept caractéristiques de la prière efficace dans Jacques chapitre 5 et le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est cette efficacité que nous devons rechercher. Il ne s'agit pas de prier, de prier, de prier, juste en mentionnant des paroles, mais de chercher à être selon l'esprit. Beaucoup de gens prennent régulièrement des résolutions dans leur vie spirituelle. Ils décident d'être plus ponctuels, ils décident d'être plus fidèles à Dieu, de ne pas s'énerver, de lire leur Bible tous les jours, de prier tous les jours. Et puis finalement, ces résolutions ne durent qu'un temps et ils retombent dans les mauvaises habitudes. Et la prière, c'est une bonne résolution, mais il faut l'entretenir dans le temps. Il ne s'agit pas de se lancer à dire « ça y est, je vais prier, je suis résolu, je vais prier tous les jours » et puis au bout d'un mois, 6 mois, 9 mois, finalement, on n'arrive pas à tenir nos engagements. Il faut être résolu. La prière efficace va être reliée à notre attitude de cœur par rapport à Dieu. Là, le texte dit « la prière agissante du juste ». Vous avez remarqué ce mot ? Le juste, ça désigne l'enfant de Dieu. Il doit être juste, c'est-à-dire c'est celui qui aime Dieu, c'est celui qui est en communion avec Dieu. Et si vous ne veillez pas sur votre relation avec Dieu, vous ne serez pas efficace dans la prière. Dans le contexte, Jacques demande un petit peu au-dessus de confesser ses péchés. Et on sait très bien que les péchés, c'est des obstacles à nos prières. Donc si nous ne confessons pas nos péchés, mais que nous prions, c'est comme s'il y a une chape de plomb qui empêche nos prières d'accéder au trône de Dieu. C'est pourquoi la confession précède la prière efficace. La confession, c'est comme si le ciel s'ouvre et qu'on rentre en communion avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être en communion avec nous si nous ne confessons pas nos péchés, car Dieu n'a pas de communion avec le péché. Nos péchés mettent toujours une séparation entre nous et Dieu. Donc, voyez, la prière efficace, elle vient après la confession des péchés. Il faut déjà réaliser le mal qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas été selon la volonté de Dieu et demander pardon. Quelles sont les caractéristiques de cette prière? J'en ai trouvé 7 que je voulais partager avec vous. La première, cette prière d'abord provient d'un cœur humble. On va lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Elle provient d'un cœur humble. Le texte dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous retrouvez d'ailleurs la repentance, ici, de confesser ses péchés. S'il se détourne de ses mauvaises voies, vous retrouvez cette notion que Jacques avait mentionnée. Mais il rajoute « s'il s'humilie ». Et s'humilier, c'est s'abaisser devant Dieu, c'est reconnaître notre faiblesse. Donc la prière efficace consiste à déjà réaliser la grandeur de Dieu et nos limitations et venir petit devant Dieu, en nous approchant de lui, en reconnaissant que nous ne sommes que poussière, que nous sommes fragiles. Et ça, c'est une difficulté pour la nature humaine parce que nous sommes orgueilleux de nature humaine et ainsi, ça met un blocage entre nous et Dieu. Les apôtres étaient souvent sans solution et ils reconnaissaient que Dieu pouvait tout changer. Pierre et Jean, par exemple, ont prié pour un boiteux à l'entrée du temple près de la porte Labelle et il a donné une parole d'autorité. Il dit « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Parole de Dieu. L'homme a été guéri et ils ont annoncé l'évangile. Mais quand il y a des bénédictions, il y a des contre-coups. L'ennemi n'aime pas. Donc il va susciter des pharisiens, des religieux qui vont enfermer les apôtres en prison. Ils sont convoqués devant les Sanhédrin, ils vont témoigner de Jésus. Et ils vont dire devant le Sanhédrin, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ils témoignent de Jésus hardiment. Mais ils ont l'ordre de se taire et de ne plus parler de Jésus. Alors ils se décident de se rassembler pour prier. Et c'est ça la force des chrétiens, c'est que quand on est en difficulté, on est acculé, il n'y a pas de solution, nous avons une autre solution, c'est de nous rassembler pour prier ou prier avec quelqu'un. Ainsi, ils vont se rassembler, c'est un petit peu comme les fourmis. Une fourmi toute seule, ça ne peut pas faire grand-chose, mais si vous rassemblez toutes les fourmis ensemble, ça fait une fourmilière, c'est très actif, c'est très puissant. Et donc, ils vont se rassembler et ils vont se tourner vers Dieu dans la prière. Et là, ça va être une prière efficace. Ils vont prier tous ensemble en disant « Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, vois les menaces d'Hérode. Il y avait Pilate, il y avait Hérode qui s'était ligué pour leur nuire. Vois leurs menaces, ils étaient en difficulté. Vois leurs menaces. Et ils s'humilient devant Dieu à ce moment-là. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de solution. Et il dit, étends ta main et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils savent que ce n'est pas par leur force, ils savent que ce n'est pas par leur piété, mais ils savent que c'est par l'œuvre de Dieu en eux et c'est ce qui va se passer. Ils vont être remplis du Saint-Esprit, le lieu va trembler, ça va leur donner de l'énergie et ils vont aller témoigner le nom de Jésus alors qu'on leur a interdit de le faire. Donc ils vont avoir la force de Dieu. La prière efficace va vous mettre en communion avec Dieu, le Saint-Esprit, qui va vous remplir pour être un témoin. Dieu permet parfois qu'on n'ait plus aucune solution, et c'est un peu pour nous éprouver. On est éprouvé dans la foi. La Bible dit qu'un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mais peut-être ça nous arrive aussi. On est à l'épreuve. On est mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu dans cette épreuve? Et c'est un petit peu une tension. En général, on n'aime pas les tensions. On aime bien avoir toutes les assurances. On aime bien savoir où on va. Mais avec Dieu, on est souvent dans des situations où on ne sait pas. C'est une tension, ce n'est pas agréable. Et c'est là où on est éprouvé, et finalement, est-ce qu'on va faire confiance en Dieu malgré qu'on ne voit pas plus loin? Là, c'est notre épreuve à nous. Il faut avancer par la foi. Alors, nous devons nous humilier devant Dieu. Regardez 1 Pierre 5,6. C'est demander aux croyants, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Remarquez que c'est demander aux chrétiens de s'humilier eux-mêmes. Et si nous tardons à le faire, l'humilité arrivera toujours parce que Dieu nous veut humbles pour son service. Donc il vaut mieux s'humilier soi-même plutôt que d'être confronté à une situation qui va nous humilier. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est donc un ordre qui nous est donné, que nous avons tout intérêt à observer, parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil et il va de toute manière le faire tomber, puisqu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc il nous faut nous-mêmes reconnaître que nous devons être humbles dans la puissante main de Dieu, et si nous le faisons nous-mêmes, eh bien, ça va être le gage d'une prière efficace. Donc c'est vraiment important. Ça, c'était le premier aspect, première caractéristique. La prière efficace, d'abord, elle puise sa source dans l'humilité. Deuxième caractéristique, c'est qu'elle a lieu au temps convenable. Psaume 32, verset 6. Psaume 32, 6 dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Que tout homme, on peut dire tout homme, toute femme, tout être humain, tout croyant, te prie au temps convenable. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde court après le temps. On n'a jamais le temps, on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais en fait, c'est une question de priorité. Quelles sont nos priorités? Parce qu'on a tous le même temps, et certains, avec le même temps, ils arrivent à faire des choses pour Dieu, et d'autres n'ont jamais le temps pour Dieu. Donc, c'est plutôt comment je vais gérer mon temps. Comme dit le psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours, à bien gérer notre temps. Le temps passe vite. C'est dommage de passer sa vie, de perdre son temps et de ne pas utiliser au moins une partie de notre temps pour le Seigneur. Et c'est ça qui est édifiant, c'est ça qui est fortifiant. Donc il y a un temps à mettre à part, un temps que l'on doit consacrer au Seigneur, qui devrait être dans notre agenda d'ailleurs, un temps marqué pour avoir un culte personnel, un temps où on cherche Dieu, où on prie, où on médite. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Ça va être une nécessité si vous voulez tenir dans la durée. On peut comparer la vie chrétienne à un marathon, c'est une course de fond. Et donc, il faut tenir jusqu'à l'arrivée. 42 kilomètres, hein, il faut arriver au bout. Eh bien, la vie chrétienne, il faut arriver au bout, à la ligne d'arrivée, c'est le ciel. Et dans ce long périple, eh bien, nous devons avoir cette régularité dans la prière, avoir un temps chaque jour. Je dirais même qu'un chrétien qui néglige ce temps fondamental, il est en danger spirituel, il est en danger de déclin, et s'il ne prend pas les bonnes dispositions, il est même en danger de mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il peut s'assoupir, il peut s'endormir et mourir spirituellement. Donc, la prière, c'est vraiment la vie, c'est un petit peu comme l'eau. Pour la plante, ça va lui permettre de vivre et de s'épanouir. Ben, vous arrêtez la prière, vous négligez la prière, vous la diminuez, vous l'espacez de plus en plus, vous êtes en train de vous asphyxier spirituellement. Vous êtes en danger. Donc c'est important, au temps convenable. Moi, je dirais chaque jour. L'idéal, c'est le matin, avant d'aller dans nos activités. Psaume 88, verset 14, c'est comme ça que dit le psalmiste. « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. » Vous remarquerez souvent dans les psaumes et dans plusieurs passages, Jésus lui-même, si vous étudiez les prières de Jésus, le matin, il se tenait devant Dieu. Le matin, pourquoi c'est important le matin? Parce que c'est là qu'on va présenter la journée au Seigneur. C'est un moment particulier et il faut que vous le sachiez, c'est que l'ennemi, il a fait des plans pour la journée pour vous nuire. Et le matin, vous pouvez prier pour que cette journée soit consacrée à Dieu et que vous soyez gardé de tous les plans du malin. La plupart des gens, le matin, ils s'intéressent plus à ce qui s'est passé sur leur téléphone portable pendant la nuit, les infos du jour, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les mails, etc., les réseaux sociaux. Leurs préoccupations, en fait, elles sont centrées sur les choses de la terre. Mais nous, chrétiens, c'est pas notre priorité, elle n'est pas là. On n'est pas comme les animaux. Les animaux, eux, si vous prenez les vaches, par exemple, les vaches, elles sortent de la grange, c'est pour aller brouter. C'est leur vie. Leur vie, c'est les choses de la terre. Elles broutent. Et puis, quand elles ont fini, elles se reposent. Et puis, après, elles rentrent. Et puis, le lendemain, elles refont la même chose. Ça, c'est la vie d'une vache. Elle est centrée sur ses besoins, sur les choses terrestres. Mais nous, chrétiens, on n'est pas centré sur les choses de la terre. Nous, chrétiens, nous sommes centrés sur les choses célestes. Et ce qui doit nous animer le matin, ce n'est pas les choses de la terre, en priorité. C'est les choses célestes. Ça, c'est un signe qu'on est en bonne santé spirituelle. Si vous êtes plus animé et plus en désir de vous rassasier des choses de la terre dès le matin, c'est que spirituellement, il y a une faille. C'est-à-dire que vous êtes en danger spirituel, vous êtes affaibli spirituellement. Parce qu'un chrétien en bonne santé, c'est obligatoire, il ne pourra pas se réveiller en se précipitant pour les choses de la terre. Sa précipitation, s'il est en bonne santé, ça sera pour Dieu. C'est obligé, c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre manière de vivre sa foi. Pour nous, nos premières pensées au réveil doivent se tourner vers notre Dieu, vers Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, prier, être édifié. Voilà, ça c'est le temps convenable. Avoir un temps convenable, c'est préparer un temps que vous dites, ça c'est un temps incontournable. Et même si vous êtes en bonne santé, vous allez mal vivre si vous n'avez pas ce temps, vous allez être repris, vous n'allez pas bien et vous ne pourrez pas vivre une journée bien si vous n'avez pas pris un temps vraiment avec Dieu. Ça c'est, voilà, c'est la base. Préparer la journée dans la prière, il y aura des pièges, il y aura des opportunités que Dieu vous conduise. Eh bien, on prépare tout ça dans la foi, dans la prière, on remet tout entre les mains de Dieu, que Dieu nous conduise, par exemple, dans nos choix, il y aura peut-être des décisions à prendre, il y aura peut-être des personnes que vous allez rencontrer, peut-être même Dieu mettra sur votre route une personne pour donner un témoignage, une parole, peut-être un verset. Eh bien, soyons prêts, et tout ça, ça se prépare dans la prière, dès le matin. Donc c'était le deuxième caractéristique, elle est au temps convenable, trouvons un temps, particulièrement le matin, c'est l'idéal, sauf si on est vraiment décalé dans nos horaires, on trouve un autre horaire, mais le matin, c'est vraiment le bon moment pour être devant Dieu. Et puis, ça doit être une prière maintenant qui est régulière. Daniel 6, verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On sait par le livre de Daniel que Daniel, donc il avait eu l'interdiction d'adresser des prières à un autre Dieu que le Dieu du pays, et lui, trois fois par jour, il continuait à prier son Dieu. Le texte dit trois fois par jour, donc il avait une régularité dans la prière. C'était Darius, qui était d'ailleurs très content de Daniel, mais les trois chefs des satrapes qui étaient à la tête du pays. Donc, il y avait eu des jalousies entre eux, et Daniel en faisait partie, de ses chefs. Et donc, les autres se sont ligués contre Daniel pour lui nuire, et à cause de sa foi en Dieu, de l'écarter du pouvoir. C'est-à-dire que quand vous aimez le Seigneur, que vous le vouliez ou non, ça va susciter des jalousies et des oppositions. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Daniel, il n'a rien fait de mal, il aimait juste son Dieu, mais il y a la haine du monde. C'est Jésus qui nous dit de ne pas nous étonner si le monde nous hait. Il y a une haine de la foi chrétienne. Pourquoi ? Ça suscite des jalousies, ça suscite de l'opposition, mais comme ils ne trouvent pas de faute en lui, ils vont chercher dans sa foi. Et à cause de sa foi en Dieu, on sait qu'il va être jeté dans la fosse aux lions. Donc Daniel n'a pas changé ses habitudes, c'est-à-dire que nous devons résister à la pression, nous devons être fidèles même quand les choses tournent mal. Il n'a pas peur même de perdre son poste. Eh oui, on ne devrait pas être cramponné à un poste si on sait que c'est quelque chose de nocif pour nous. Donc il préfère son Dieu à son poste, clairement. Et nous, chrétiens, on a mis quand même Dieu au-dessus de toute chose. Donc c'est pas... On ne suit pas le monde et ses principes, on suit Dieu et sa parole. Donc lui, il était régulier, il risquait de perdre son poste, ce n'est pas grave, parce qu'on sait très bien que si on perd le poste, Dieu permettra qu'on ait un autre poste, et il ne faut pas s'inquiéter. Ne laissez pas les circonstances vous diriger, mais soyez comme Daniel, résolu, il était résolu de prier tous les jours, trois fois par jour, lui, et il n'a pas changé ses habitudes malgré le risque de perdre sa place. C'est-à-dire que nous devons nous décider, et ça c'est une décision personnelle, de prier tous les jours, que ce soit des bons jours ou des mauvais jours. Et les mauvais jours, ça existe. C'est dit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est Paul qui dit « Prenez les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour ». Il y a des mauvais jours. Même dans la vie chrétienne, il y a des mauvais jours. Et ces mauvais jours, en fait, ben, nous devons faire la même chose que les bons jours. Les mauvais jours, nous devons louer le Seigneur comme nous louons le Seigneur dans les bons jours. Vous voyez, ce n'est pas parce que c'est un mauvais jour, et souvent c'est l'attitude qu'on voit dans certains chrétiens qui ne sont pas matures. Ah, c'est difficile aujourd'hui, je reste à la maison, je ne vais pas au culte. Vous voyez, c'est un mauvais jour. Mais qu'est-ce qu'on doit faire le mauvais jour ? Mais je viens adorer le Seigneur, comme si c'était un bon jour. Que ce soit un bon ou un mauvais jour, en fait, nous devons être là à notre poste et chercher la face de Dieu. Et ça, c'est voilà, la prière qui va être efficace. La prière, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est même pas une question de je ressens ou je ne ressens pas la présence de Dieu, c'est une question de foi et de fidélité, de régularité à Dieu. Le monde sait que la régularité est une source d'efficacité. Regardez comment les sportifs ils s'entraînent avec régularité, tout ça pour gagner un quart de seconde. Un centième de seconde, c'est le record du monde battu, mais quel effort, quelle régularité, ils le savent, que ça paye. Mais c'est vrai dans le domaine spirituel. Si vous êtes régulier dans le domaine spirituel, ça va payer sur le plan spirituel. C'est pareil pour les musiciens, ils savent qu'ils s'entraînent, ils progressent et ils deviennent plus à l'aise, ils passent des paliers, mais parce qu'ils ont mis de la régularité et un effort dans tous les domaines, artistique, musical, partout. Eh bien, je dirais, sur le plan spirituel, si nous sommes sérieux, si nous sommes constants, réguliers, eh bien, ça va payer sur le plan spirituel, c'est-à-dire des bénédictions vont être déclenchées parce qu'on a pris le temps. Mais par contre, si on est négligent, ben regardez, prenez le même exemple. Vous êtes négligent dans le sport, vous allez une fois sur deux à l'entraînement, ben vous ne serez pas sélectionné. Vous ne serez pas sélectionné parce que vous ne serez pas opérationnel. Vous avez négligé. Eh bien, ce sera pareil sur le plan spirituel. Celui qui néglige la prière ou les réunions ben, petit à petit, une indiscipline s'instaure et ben, il ne sera pas sélectionné. À un moment donné, Dieu choisit aussi ses enfants en fonction de leur engagement, de leur zèle, de leur foi. C'est pour ça que Paul dit « aspirez ». Soyez zélés, hein, dans l'original, c'est quand vous voyez le mot aspirer aux dons spirituels, c'est soyez zélés pour les dons spirituels. Donc Dieu donne à ceux qui ont soif. Donc quatrième caractéristique de la prière après cette régularité, quatrième, c'est la prière, elle doit être secrète. Matthieu 6, 6, ça c'est ce qu'on appelle la prière secrète du croyant. C'est un petit peu comme vous voyez l'iceberg, vous voyez le sommet, ça c'est ce qu'on voit à l'église. Et puis ce qu'il y a dessous, sous la mer, là, cette grosse partie, c'est la prière secrète. Et finalement, la bonne base, elle est là. Matthieu 6, 6, quand tu pries, là on parle bien de régularité. C'est pas si tu pries de temps en temps, mais c'est quand tu pries. Donc déjà on a enclenché, on est devenu un disciple, on n'est plus juste un croyant qui vient comme ça de temps en temps. Non, on est enclenché. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc on a trouvé déjà un lieu particulier. Ça peut être une chambre, mais ça peut être un autre... notre pièce dans la maison, où on trouve un endroit tranquille, ferme ta porte, c'est-à-dire un endroit où on ne va pas être dérangé, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est la prière en tête-à-tête, c'est la prière avec Dieu. Trouver un lieu à part, un lieu au calme, être centré sur Dieu, j'allais dire, c'est ça la base de la prière, c'est ça qui fait qu'on va avoir... le retour de Dieu. Le Père qui te voit dans le secret te le rendra. La prière du sommet de l'iceberg, c'est celle de l'Église. Alors, si vous ne priez que à l'Église, c'est pauvre. C'est très pauvre, votre vie de prière. Mais la vie de prière secrète, elle est profonde. Elle va être 90% de la surface de l'iceberg. Donc, c'est ça qui va faire que le Dieu qui vous voit dans le secret te le rendra. Dieu aime la prière secrète. Personne ne le sait. C'est entre vous et Dieu. Mais Dieu le voit. Et Dieu rémunère, Dieu honore ceux qui l'honorent. Il y a une instauration de communion. Il entend votre cœur, il voit vos prières, c'est-à-dire vos besoins, les cris de votre cœur. Il entend votre consécration, votre envie d'avancer, et il vous le rendra. Il veillera sur vous et il vous accordera son secours. Cinquième caractéristique, toujours la prière, eh bien, la prière efficace, elle doit être associée à la foi, toujours. Matthieu 11, 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus lui-même qui associe la foi, croyez, impératif, vous l'avez reçu et deuxième temps, vous le verrez. La prière et la foi sont donc comme les deux faces d'une même pièce. Il y a la face pile et l'autre face. Et donc, ces deux faces font qu'il y a une seule pièce, côté pile, côté face, et qui vont permettre que la prière va être efficace. Si vous priez sans y mettre la foi, ben, ça ne va pas être efficace. Si vous croyez mais que vous ne priez pas, ben, ça ne va pas être efficace. Il faut vraiment associer les deux. Alors, Jésus nous encourage à avoir une foi audacieuse. Ça consiste à croire, et ce verset, on devrait le méditer, parce qu'il nous demande de croire qu'on a déjà la chose, donc on doit l'avoir dans notre cœur, avant de la voir s'accomplir. Il y a le temps où on l'a reçue dans notre cœur par la foi. Eh bien ça, c'est la prière. La prière, elle développe par la foi la concrétisation de ce qu'on n'a pas encore réellement. Parce que Dieu voit les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Et nous devons développer ce type de regard. Voir les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Ça, c'est la vision d'Abraham. Quand Dieu s'adresse à Abraham, Dieu lui dit à trois reprises, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il lui dit au futur. Mais à d'autres moments, il lui dit, j'ai fait de toi une grande nation. C'est fait. Tu l'as reçu par la foi. Ou alors, à un autre moment, il dit, je fais de toi au présent une grande nation. Et en fait, pour Dieu, il peut parler au présent, au passé, au futur. Et c'est déjà quelque chose que nous avons reçu par la foi. Et ça, c'est le temps de Dieu. En entrant en communion avec Dieu, nous pouvons dire, par la foi, je rends présent, présent ce qui est à venir. C'est par la foi. Et ça, c'est une prière de la foi que nous devons développer. Un jour, il y a quatre hommes qui sont venus vers Jésus. Ils portaient un paralytique. Ils ne pouvaient pas venir dans la présence de Jésus parce que la foule bloquait la porte d'entrée de la maison. Et puis, ils étaient tous rassemblés autour de Jésus. Alors, ils sont passés par le toit. Ils ont ouvert le toit. Ils ont fait descendre le paralytique. Et le texte dit, quand Jésus a vu ça, il a dit, c'est écrit, Jésus voyant leur foi. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, la foi, avec nos yeux. Mais Jésus a le discernement pour voir notre foi. Où en est notre foi ? Jésus voyant leur foi, et là il va s'adresser au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche, il va y avoir la guérison. Donc ces hommes ne venaient pas pour eux-mêmes, ils venaient pour un malade et ils avaient la foi que Dieu allait faire quelque chose. Et nous, quand nous allons prier, est-ce que Jésus va voir la foi dans notre cœur ou est-ce qu'il va voir le désintérêt, le doute, le manque de foi, l'incrédulité tout simplement ? Parce que la foi s'appelait à Dieu, mais regardez combien de fois Jésus a reproché le manque de foi des disciples. Gens de peu de foi, à cause de leur incrédulité. Et constamment, il leur reprochait leur manque de foi. Sixième caractéristique, la prière efficace, elle s'apprend. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Enseigne-nous. Ça veut dire qu'on peut apprendre à prier mieux et à prier selon la volonté de Dieu. Encore aujourd'hui, on a des modèles de prière. Vous avez le Notre Père. Mais c'est un modèle. Bien sûr, ce n'est pas une récitation. Mais on peut apprendre à prier. On peut apprendre avec les psaumes. On peut apprendre à prier selon le cœur de Dieu. Dans les psaumes, vous trouverez des louanges, des adorations, de l'intercession, du combat spirituel, des supplications. Vous avez toutes sortes de prières. Et ça peut vous aider, ça peut vous inspirer à développer votre vie de prière, parce que quelquefois on est un peu limité, mais les psaumes peuvent vous ouvrir sur de plus vastes possibilités. Et je termine, une septième caractéristique, la prière efficace, elle est persévérante. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et vous remarquez ce petit mot, toujours. Il faut toujours prier. La prière efficace, elle est persévérante. Vous aurez toujours le mot avec la prière efficace. Nous devons donc être déterminés parce que nous avons un ennemi qui est déterminé. Il est déterminé à nous détruire, à nous nuire, c'est le diable. Eh bien, nous devons être plus déterminés que lui. Nous, toujours dans la prière, toujours dans la foi, toujours déterminés à faire la volonté de Dieu. Et là, on a besoin du secours de Dieu parce qu'on est faible, on a des hauts, on a des bas. Mais on ne doit pas se fier à nos états d'âme ou nos états de cœur, mais on doit toujours prier. Même si on ne va pas bien, on doit toujours prier. Selon Jésus, il faut toujours prier, c'est même une nécessité quotidienne. Et on doit prendre au sérieux ses conseils parce que sinon, on va déraper. Il y a un réel danger au relâchement, c'est ce qu'il dit. Il faut toujours prier et ne point se relâcher parce qu'il dit si vous vous relâchez, vous êtes en danger spirituel. La nature humaine se relâche facilement. Combien de fois on a commencé, puis on a abandonné, puis après on a recommencé, puis on a abandonné. Et le relâchement fait que on arrête. Les caractéristiques des premiers chrétiens, si vous lisez les Actes des Apôtres, ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Une autre version dit « ils priaient avec assiduité ». Ça doit être la prière des enfants de Dieu. On va prier quelques instants. On a vu cet aspect, cette caractéristique de la prière efficace, que Dieu nous aide à être de ceux qui prient de cette manière-là. On a toujours besoin de progresser dans notre vie de prière, bien sûr, mais ne vous laissez pas impressionner par l'ennemi qui veut vous décourager, vous dissuader, ou peut-être vous faire croire que votre prière, elle vaut moins que les autres. Non, chaque prière a sa valeur. Mais vous devez être vous-même convaincu que c'est important d'avoir un temps chaque jour avec Dieu. Vous ne pouvez pas juste vivre avec le mardi soir ou le dimanche matin. C'est très bien déjà, dimanche matin, mardi soir. Mais bien sûr que Jésus, il nous veut à 100%. Et la grande majorité du temps, vous n'êtes pas à l'église. Vous êtes chacun dans vos occupations. Et c'est là qu'on va développer la prière en profondeur. On va développer cette prière secrète, dans l'humilité, chaque jour. Chaque jour, vous ne pouvez pas être à l'église chaque jour, mais vous pouvez avoir un temps chaque jour à la maison. Avec régularité, ce lieu secret à trouver, toujours associer la prière à la foi, apprendre des prières de Jésus, et puis être persévérant. Merci encore pour ta parole qui nous donne ces bons conseils pour progresser dans notre vie de prière, pour nous approcher encore de ce trône de grâce. Nous recherchons, Seigneur, à tes pieds les solutions divines quand nous sommes acculés, quand nous ne voyons plus loin devant nous, quand même un pas nous coûte parce que nous ne savons pas si nous pourrons avancer. Alors, Seigneur, viens à notre secours, montre-nous ta gloire, apprends-nous à prier avec foi, avec dans notre cœur cette assurance que tout ce que nous demandons en ton nom, nous croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Oui, Seigneur, nous voulons prendre ta parole au mot. Ta parole est la vérité, elle est plus réelle que les événements qui nous entourent. Ta parole, elle surpasse les événements même physiques. Ta parole, elle surpasse parce qu'elle est spirituelle, elle est éternelle. Elle est la parole de vie qui communique la vie. Merci, Seigneur, d'encourager mon frère, ma sœur, à avoir ce temps personnel, ce temps régulier, ce temps caché, ce temps qui va faire qu'on va grandir spirituellement et on va progresser dans tes voies. Oui, dans le nom de Jésus, reçois toute l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons être fermes. Alléluia. Oui, Seigneur. Être fermes dans tes voies. Alléluia. Oui, allume un feu, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Remplis nos cœurs de ton zèle. Alléluia. Oh, tout est possible. Alléluia. Oh, s'il te plaît, oui, agis, Seigneur. Crée la repentance dans les cœurs. Alléluia, oui. Puissant, remplis-nous de ton feu, Seigneur. Accorde-nous ton onction, alléluia. S'il te plaît, Jésus. Oui, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Oui, merci, Père de grâce. Amen, oh, oui, Seigneur, agis. Puissance, alléluia. Tu vas agir, alléluia. Tu vas manifester ta gloire, alléluia. Je prie pour une percée, alléluia. Oh, fais grâce, alléluia. Manifeste ta puissance. Oui, amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie toujours pour les couples, pour les familles, que le Seigneur étende sa main. Est-ce qu'on pourrait se lever, prier tous ensemble encore ce soir pour que Dieu étende sa main? On peut élever la voix tous ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia.